CFM Villefranche, le mag.
Allez, le magazine d'actualité, la suite avec en studio, comme annoncé, Rémi Castagnier, un habitué de ces studios. Salut Rémi, ça fait plaisir de t'accueillir pour cette rentrée 2026-2027.
Salut David.
Rémi, on te retrouvera sur l'antenne à l'animation de cette première de la saison, Allo Frelon, mission repeuplement. Merci en attendant d'avoir accepté cette invitation. Moi, je souhaitais t'accueillir parce qu'on a eu un été un peu, on a beaucoup entendu parler de cet été avec ces vagues de chaleur et puis tout ça. Et de par ton activité, dirigeant de l'entreprise, Allo Frelon, président de l'association GSM Ma Planète. Tu es un observateur du quotidien puis de l'environnement et d'avoir ton retour, ça nous permet peut-être de nous situer. Je sais que tu n'es pas fataliste, donc quoi qu'il en soit, ça repousse, il y a de la biodiversité. C'est aussi un peu la mission que tu t'es fixée avec Allo Frelon, mission repeuplement, un projet que tu as lancé en début d'année. Bah, je te poserai de la question de savoir où tu en es. Et puis, tu n'arrêtes pas, tu n'es pas court d'idées, on peut le dire. Il y a des choses qui se prépare, notamment un jeu de cartes pédagogique, ludique en même temps, extraordinaire. T'as que des belles idées, t'es curieux, tu te découvres et puis ensuite t'aimes restituer. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus, tu vas intervenir, tu prends ton plaisir là aussi dans la transmission de l'information. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais comment ça va toi? Parce que c'est pas de tout repos, t'as bossé tout l'été parce que appelé de partout.
C'est
et
ça.
En plus, t'es le genre de garçon à pas savoir dire non. Bah alors forcément, voilà.
Oui, c'est vrai que voilà, j'ai quelques petits troubles chez moi qui existe. J'ai le syndrome du sauveur et dans mon métier, ben voilà, je dois secourir pas mal de personnes sur les guêpes et les frelons.
Toutes les situations sont différentes à chaque fois.
Voilà, à chaque fois c'est totalement différent. Mais ouais, merci beaucoup pour cette présentation déjà. Ça
avec
fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Oui, c'est vrai que je suis pas fataliste et l'été pour moi a été particulièrement intense. Il y a eu de l'insecte, pas forcément les meilleurs et pas forcément les plus agréables à vivre avec, mais j'ai eu la chance d'avoir quelques particuliers qui ont de très jolis jardins bien verdoyants et plein de vie, où on se rend compte qu'en fait, la nature elle demande juste à exploser à partir du moment où on lui laisse sa place.
Ouais. Trois gouttes d'eau et ça repart, on pourrait dire.
Trois gouttes d'eau, ça repart, une petite mare, deux, trois arbres morts et on voit que tout vit très très vite quoi.
Un tas de cailloux, un tas de branches. Je vais pas dire que j'écoute tes émissions, mais ça aide en tout cas à ramener un peu de biodiversité. Et c'est la mission que tu t'es fixée au travers du projet Allo Frelon, mission repeuplement. Tu es spécialiste de la désinsectisation, mais il y a rien de grave.
Non, je sais pas. Non, la désinsectisation en soi, pour moi, c'est un vilain mot que j'aime pas.
C'est un vilain
tout.
Mot. Mais ouais. C'est ce qu'il y a sur ton véhicule quand même, ou c'est ce qu'il y avait sur ton véhicule.
Voilà, c'est ce qu'il y avait sur le véhicule. J'ai changé de véhicule. J'ai vraiment changé l'image de marque de mon entreprise parce que pour moi, nommer un insecte en disant que c'est un nuisible, c'est lui fixer une cible dans le dos.
Ouais.
Je supporte pas les échecs.
Ouais.
Donc, si par exemple, je me mets comme mission d'éradiquer le moustique, tant qu'il restera un moustique, c'est que je n'aurai pas réussi ma mission.
Ouais.
Parce que ça devient un nuisible. Par contre, mon métier à moi aujourd'hui, c'est plus la sécurisation de l'habitat, le confort de vie de l'habitant, sans systématiquement tout éradiquer. Je suis contre l'éradication totale en fait.
C'est la cohabitation. Où se situe la cohabitation et comment...
Le seuil d'acceptabilité.
C'est ça. C'est cohabitation possible. OK. Et tu l'expliques parfaitement aux gens chez qui tu interviens.
Parfois, en fait, on ne se rend pas compte, mais certaines espèces sont quand même utiles à notre environnement.
Ouais.
Et quand on ne les connaît pas, on a tendance à ne pas se soucier de leur présence.
Ouais.
Et du coup, il faut les supprimer parce que, en soi, j'ai un inconfort et du coup, cet inconfort, je préfère le supprimer plutôt que de comprendre pourquoi elles sont là.
Et on a une vision un peu cloisonnée des choses.
Totalement.
Pierre Dubuis, frelon asiatique, fourmi, alors que tout ça peut...
Pierre Dubuis va nourrir certains oiseaux, le frelon va être un régulateur entre des espèces invasives comme les mouches et les moustiques, mais il va être en même temps nourrisseur de certains oiseaux. Il va y avoir en fait toute une chaîne alimentaire, une chaîne trophique et des services écosystémiques rendus par toutes les espèces. Mmh. Plus on va s'amuser à supprimer, plus on va renforcer certaines espèces invasives et on va avoir des grosses problématiques par la suite parce que ces espèces sont vraiment centrées sur l'homme, sur leur fonctionnement et on ne pourra pas s'en séparer. Et en fait, la nature a la chance de pouvoir nous amener ces équilibres-là.
Ouais.
Il faut juste comprendre comment ils fonctionnent. Moi, mon activité, c'est simplement, s'il y a un danger réel et immédiat, j'interviens. Si le danger n'est pas réel ou n'est pas immédiat, on va laisser l'opportunité à ce que ça se développe. J'ai même des clients aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se finir l'histoire, mais qui ont des nids de frelons européens chez eux, qui arrive à vivre avec, comme je l'ai expliqué, là, le fait que le soleil va se coucher, se coucher un peu plus tôt, du coup, ben, il va y avoir la phototaxie qui va se mettre en place, le frelon va être attiré par la lumière un peu plus tôt le soir, et du coup, la cohabitation risque d'être un petit peu compliquée. Mmh. Mais on va essayer d'amener à ce que la période de reproduction du frelon européen se fasse pour que la génétique soit transmise l'année suivante. Si on détruit aujourd'hui, on stoppe toute la génétique. Si on attend un petit peu, la génétique va se transmettre et on va, en fait, uniquement supprimer la fin de vie de la colonie de frelons qui, quoi qu'il arrive, se serait arrêtée au mois de décembre. On va peut-être la raccourcir d'un mois, deux mois, suivant le seuil d'acceptabilité, toujours pareil.
Le frelon asiatique, c'était la terreur. Hein. Il faisait les gros titres, hein, le frelon asiatique. En tout cas,
toujours
d'actualité.
Ah ouais. C'est vraiment le démon sur terre, quoi. Ouais. Il tue toutes les abeilles. Il faut l'éradiquer, alors qu'on n'y arrivera jamais. Si on remet vraiment les choses dans leur contexte, je vais me centrer entre l'humain. Et le frelon asiatique, déjà on l'appelle frelon asiatique, on ne devrait plus l'appeler frelon asiatique, ça fait 25 générations qu'il est là, ça fait 25 ans qu'il est là, une génération par an. Si nous on remonte à 25 générations, en 1400 et quelques, est-ce que moi j'étais français ? Non, clairement j'étais pas français, j'ai des origines d'un peu partout, donc on peut m'appeler Rémi le Polonais, Rémi le des Balkans, comme vous voulez, mais non, je n'étais pas français en 1400 et quelques, ça c'est sûr.
Le viking, moi je te vois bien, voilà. Avec le casque.
Mais voilà, ce frelon asiatique, donc c'est le frelon à pattes jaunes, c'est Velutina, de son petit nom, Vespa Velutina nigritorax, qui est arrivé en 2004, et aujourd'hui on est en train de, entre guillemets, le vouloir l'éradiquer de tous les moyens possibles, quitte à être dangereux même pour l'environnement, uniquement pour sauver les abeilles à miel. Parce que l'abeille à miel, aujourd'hui, c'est la sentinelle de l'environnement. Il faut la préserver. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas utile, mais elle est utile dans certains contextes, notamment d'agriculture intensive pour des exploitations agricoles. Si on se met à voir l'impact de l'abeille à miel sur des forêts et où on a des fortes populations d'abeilles, on va déséquilibrer la forêt et on va créer, en fait, une famine auprès de tous les autres insectes pollinisateurs de la forêt. Mais ça, c'est un long débat aussi.
Et le bourdon dans tout ça? Alors, on n'en parle jamais du bourdon, l'abeille, mais le bourdon. Qu'est-ce qu'il fait, le bourdon?
Le bourdon, il a le bourdon. Dans le bourdon, il n'a pas le bourdon.
Il a son utilité.
On a une forte demande d'intervention sur du bourdon qui se cache maintenant dans les maisons de plus en plus. Sous la laine de verre, et cette année j'ai fourni 3-4 colonies au total à des maraîchers bio du territoire.
D'accord.
Les jardins de Vezac, sur La Fouillade, Saint-Vincent et Najac aussi.
Au jardin de la rivière peut-être.
Au jardin de la rivière, ouais. Voilà, chez Xavier et Marie-Lucille, ouais. Qui ont récupéré une belle colonie de bourdon qui a pollinisé en fait tout l'été les pieds de tomates, les pieds d'aubergines, de courgettes et de poivrons. Il faut savoir en fait que le bourdon, il a un super pouvoir, c'est que le bourdonnement face à la fleur va déclencher une réaction de la fleur qui va libérer plus de nectar et plus de pollen parce que c'est du bourdon.
Malin le bourdon.
C'est ça, c'est ça.
On parle de tes études quasiment scientifiques aussi, je pense à Morlion, au lac de Morlion avec les chenilles processionnaires, je pense au comptage et au piégeage du côté du rucher école, voilà, ça fait partie aussi de ton activité, tout est parallèle.
Moi j'adore les expériences, donc j'ai la chance de pouvoir les mener, j'ai la chance d'avoir des clients et des partenaires qui me font confiance et qui m'accordent leur savoir et leur potentiel d'action sur un territoire. Donc au niveau de Morlion, la mairie de Morlion m'avait sollicité par rapport aux chenilles processionnaires, et j'ai juste simplement décidé de faire une invasion de prédateurs de chenilles processionnaires pour résoudre un problème d'invasion de chenilles processionnaires. Donc en fait, en faisant venir les micro-guêpes pour manger les œufs des chenilles processionnaires, pour faire venir la mésange qui va manger la chenille, pour faire venir le hérisson qui va manger la chenille en procession, pour faire venir la huppe fastier qui va trouver la chrysalide, puis ensuite la chauve-souris qui va manger le papillon. À quel moment elle peut survivre à tout ça? Tout simplement. Et c'est vrai qu'on est passé de 50 pins attaqués la première année quand ils m'ont appelé à seulement 4 pins attaqués l'année suivante. Et là, il n'y a plus aucune chenille processionnaire sur le territoire parce que la nature a été rééquilibrée et Le problème, c'est que l'homme a voulu faire une implantation de pin et faire une monoculture de pin autour de ce lac. Côté du lac, il n'y avait que du pin par endroit.
On aime bien organiser, nous, la nature, hein, prendre, la ranger, voilà, ranger la forêt. Voilà. Comme
il faut que ce soit propre.
Il faut que ce soit propre.
Propre. Il ne faut pas qu'il y ait une toile d'araignée, surtout pas. Ce serait, Mais voilà, on et a donc... fait une invasion de pin. Du coup, il y a eu l'invasion de chenilles. Et moi, je suis arrivé avec mon invasion de nature derrière qui a rééquilibré tout ça.
Et
tout
paf du côté du rucher école, là, c'est les frelons asiatiques, pour le coup, qui étaient voilà. la cible de ton expérimentation, qui porte ses fruits aussi.
Voilà, en fait, au niveau du rucher école, j'avais remarqué, moi, beaucoup d'envie de pouvoir piéger pour résoudre une quantité de volume de frelons. Pour moi, c'est pas l'homme qui va réguler ça, mais ça, c'est une autre histoire. L'humain a besoin forcément d'agir systématiquement sur toutes les actions, même si il sait qu'il n'y a pas de résultat, il est obligé d'agir. Ça, c'est une étude qui a été faite par rapport au frelon asiatique. On sait que le piégeage ne sert à rien, mais on est obligé de faire du piégeage parce qu'on ne peut pas rien faire. Ça, c'est une loi de l'humain, il est obligé d'agir. Après toutes les connaissances moi, que j'ai accumulées maintenant en 8-10 ans de frelon asiatique, il y a pour moi, en fait, le frelon, il n'a qu'une seule fenêtre de vulnérabilité. C'est au moment, en fait, où la reine est la dernière propriétaire du nid, parce qu'il y a un enchaînement de plusieurs reines autour du nid qui vont s'entretuer. La reine, une fois qu'elle est toute seule propriétaire du nid et qu'il n'y a pas d'autres reines qui vont arriver d'ailleurs, chronologiquement, elle va continuer à alimenter ses ouvrières. Et là, sur ce dernier voyage, si on la capture à ce moment-là, la colonie avorte et la colonie est morte par... l'opportunité du piégeage. C'est pour moi la seule fenêtre de tir possible du piégeage. Le piégeage massif en début de saison, à partir du mois de mars jusqu'au mois de fin mai, c'est une aberration parce qu'on va capturer énormément de rennes qui se seraient entretuées. Donc en fait, on va faire une action sur une sélection génétique des moins gourmandes. Parce qu'on essaie de capturer les rennes par des appâts. Donc celles qui ne sont pas capturées parce que elle est trop petite, elle est trop grande ou elle n'est pas appâtée par le produit, elle va construire son nid et elle n'aura pas de concurrence sur le territoire parce qu'on aura capturé les autres. Et on se rend compte même qu'en faisant ça, on a sur certains territoires plus de nids de frelons qui arrivent à s'accepter. Ça, c'est une loi de la nature aussi. À partir du moment où il commence à y avoir une forte prédation, dans l'espèce, il y a une forte acceptation de cohabitation. Là encore ce matin, j'ai fait trois interventions sur la même maison, trois nids de frelons européens, et le gars il me dit, mais pourtant j'avais piégé. Oui, vous avez piégé, mais vous avez renforcé la nature au fait que l'effet boomerang, c'est il y a du prédateur, ben on va s'accepter. On va, au lieu de s'entretuer, on va tout faire pour que la génétique reste sur le territoire et que l'espèce reste sur le territoire. Ça, c'est à expliquer comme ça. J'ai pas forcément la science infuse, mais clairement, c'est comme ça que ça se passe. Et s'il y a des scientifiques qui écoutent, vous pouvez agir là-dessus parce que j'aimerais comprendre un peu ce système-là de comment la nature arrive à s'adapter à la prédation de l'homme.
Tu continues à te documenter, à restituer, hein, on l'entend. Et d'ailleurs, tu as été appelé, tu vas être appelé à Rodez, à l'école Champollion, pour une intervention. Chouette alors, tu vis ta meilleure des villes, hein, Rémi, on peut le dire. Si vous venez nous rejoindre, Rémi Castagnier, dirigeant de l'entreprise Allo Frelon et président de l'association GSM Ma Planète, animateur de l'émission Mission Repeuplement. On en parle entre les lignes, hein, de Mission Repeuplement au travers de tous les conseils que tu peux nous livrer pour favoriser la biodiversité et ensemencer un petit peu plus les jardins, la nature
et la vie autour de soi. Ouais. En fait, l'idée est partie d'un simple constat, une question de mon fils, c'est « Mais papa, c'est vrai qu'on utilisait les essuie-glaces l'été à cause des insectes. » Et là, c'est vrai que moi, ça m'a fait prendre un cap en me disant « Ouais, quand j'avais 9 ans, quand j'avais ton âge, je me rappelle, on partait en vacances, on s'arrêtait, on nettoyait le pare-brise parce qu'il y avait trop d'insectes. » Aujourd'hui, ça peut arriver sur certaines explosions d'une certaine espèce qui va apparaître. La pyrale du buis, par exemple, à certaines périodes, peut venir impacter le pare-brise, mais c'est une seule espèce. On n'a plus cette biodiversité, ce volume global de plusieurs espèces. On a un seul pic d'espèces à une certaine période. Et ça, c'est ce qui devient catastrophique. Mais pourquoi ? Ben parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est la fragmentation des habitats, c'est l'utilisation des pesticides, c'est l'éclairage public la nuit, c'est les sécheresses, les canicules, c'est les inondations. Tout ça va mener à ce qu'on perde des volumes d'insectes. Par chance, aujourd'hui, en France, il n'y a aucune espèce menacée. d'extinction, mais c'est un volume global qui fait qu'on est en train de perdre. Et j'ai entendu dernièrement une scientifique qui disait qu'en fait, la biodiversité, c'est un peu comme chaque rivet d'un avion. Chaque espèce, c'est un rivet d'avion. Aujourd'hui, on est en train de perdre certains rivets. L'avion vole encore.
Jusqu'ici,
et
tout
puis,
va bien.
Et puis, à un moment, il y a le rivet de trou qui va sauter. Mm-hmm. Donc, on n'en est pas là, mais...
On constate un effondrement, en tout cas un déclin de, voilà. des espèces. Hein.
C'est ça.
Rémi, je vois le chrono qui file et c'est passé déjà à une vitesse complètement folle. On va être obligé de repousser un peu les murs de l'espace qui nous est accordé. Juste un dernier mot, t'es jamais à court d'idées, ce que je disais dans mon introduction. Tu te lances, l'idée est absolument géniale, un jeu de cartes à la fois... pédagogique, oui. Ouais, c'est ça, c'est pédagogique, instructif. On est dans la continuité de tout ce que tu as dit avant, hein, transmettre, expliquer, transmettre.
Ben en fait, voilà, cette idée est venue de retour de terrain. C'est une idée assez simple, c'est faire découvrir la richesse de ces jardins qu'on peut avoir chez soi. Et moi, j'ai quelques clients qui ont des jardins qui sont magnifiques, donc je fais quelques photos d'insectes qui sont banal, tout simplement. La photo est totalement banale d'un insecte qui est totalement commun, mais que plus personne ne regarde. On va dire que tous nos enfants connaissent 10, 15, 20, 50 Pokémon. Il n'y en a pas un enfant qui serait capable de citer plus de 10 insectes. Allez, dans les grandes lignes, il va y avoir la coccinelle, la libellule, le scarabée.
Le gendarme.
Ah ouais. Le frelon, la guêpe, l'abeille, la sauterelle. Ah, j'arrive à 8.
Ouais.
Voilà. Mais du coup, en fait, le jeu de cartes, c'est simple. C'est un jeu de cartes limite.
À collectionner.
Voilà, à collectionner. Où on sort dans ce jardin, on cherche la petite bestiole. On cherche la petite, la moyenne et la grande bestiole, parce qu'il y aura aussi la capacité de pouvoir découvrir des plus ou moins grandes bestioles, des oiseaux et tout ça. Donc, ouais, c'est un jeu qui est en train de naître.
En cours de fabrication.
Bien lancé. On est en train de bien poser les bases. Prochainement, il y aura un industriel qui sera rencontré. Et l'idée aujourd'hui, elle est déjà vendue. Maintenant, il ne reste plus qu'à la fabriquer.
À suivre tout bientôt. Il y a un nom qui est déjà donné à ce jeu.
Allo Frelon, mission repeuplement.
Bah, c'est parfait. Voilà. C'est
déposé à l'INPI, l'enveloppe solo est scellée. Bah. Et puis voilà.
L'INPI qui est le droit sur la propriété intellectuelle. Hein. Donc,
voilà, les droits d'auteur dessus, il n'y a pas de souci.
Allo Frelon, mission repeuplement. C'est également le nom de l'émission bimensuelle que tu animes sur l'antenne. Tu fais ta rentrée là, lundi prochain, 12h35. Ça va parler de quoi la mission? C'est quoi la mission de ce mois de septembre, et puis nous rappeler peut-être le principe. C'est de faire en sorte qu'on se mette les mains, qu'on soit impliqué dans le faire aussi, nous, pour ramener de la biodiversité.
La mission du mois de septembre, j'ai choisi, ce sont les feuilles mortes. Les feuilles mortes parce que je suis passé à Monestier aux alentours du 14 juillet et il y avait les employés communaux qui soufflaient toutes les feuilles mortes à cause de la sécheresse et qui les chargeaient dans un camion et je ne sais pas où elles allaient partir. Pour moi, c'était peut-être la déchetterie, ça allait fabriquer du compost pour pouvoir être recyclé, peut-être ici, peut-être ailleurs. Mais quand on sait toute cette richesse qu'apporte ces feuilles mortes, voilà, au départ, ce sont des nutriments qui sont du sol, qui montent dans l'arbre et qui retombent au sol pour remonter dans l'arbre. C'est un cercle vertueux sur place. Et là, l'humain a été obligé d'y mettre le nez dedans, de fabriquer du déchet vert qu'on va recycler. Parce que l'homme ne sait pas faire autrement que faire quelque chose.
Puis il n'y a qu'à gratter un petit peu sous les feuilles pour voir combien ça apporte.
On voit de suite les mycorhizes, on voit de suite les mycéliums, on voit de suite les cloportes, les calamboles. Il y a tellement de vie dessous et on se dit que toute cette vie a une utilité.
Merci Rémi, c'est passé à une vitesse complètement folle. Il y aurait encore plein de choses à dire, j'en suis persuadé.
Oui.
Merci beaucoup, repose-toi un peu parce que là logiquement c'est censé être un peu la fin de saison pour toi, mais pas du tout.
Non.
Jusqu'en
décembre, il y a du boulot.
Ah oui. et de janvier à septembre de l'année prochaine aussi, j'imagine.
À peu près.
Merci Rémi, plein de belles choses. Merci.
Merci David.
Allez, c'était le mag du jour, l'intervention à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr et à demain pour une nouvelle édition du magazine d'actualité. Ciao.
CFM Villefranche, le mag.